Alors, je vais vous faire travailler un petit peu. J'aimerais lire avec vous un passage dans l'évangile de Jean. J'encourage tous ceux qui ont leur Bible à la prendre et à ouvrir Jean 19, verset 25. Jean 19, verset 25, nous lirons jusqu'au verset 27. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. J'aimerais vous donner quatre interprétations de ce texte. Et après, vous me direz laquelle vous préférez. Plus exactement, laquelle vous semble correspondre à la vérité. Première interprétation de ce texte. Écoutez bien, il y en a quatre. Jésus, au moment de mourir, s'inquiète pour ses disciples. Et au-delà, pour tous ceux qui formeront l'Église. Il confie donc Jean à sa mère, qui va prendre soin de lui comme une mère. À partir de là, on peut dire que Marie est la mère de l'Église. C'était la première interprétation. Je vous donne la deuxième. Jésus, au moment de mourir, ne veut pas laisser sa mère sans protection. Comme à cette époque-là, ses frères ne croient pas en lui, il la confie au seul disciple qui est présent au pied de la croix, qui est probablement Jean. À partir de là, Jean accueillera Marie dans sa maison et veillera sur elle. C'est la deuxième interprétation. La troisième. On voit ici nettement la préférence de Jésus pour un de ses disciples, Jean, qui est appelé celui qu'il aime. Il lui confie donc ce qu'il a de plus cher, sa mère, comme plus tard il confiera à Jean d'être son véritable porte-parole. Les révélations qu'il confiera à Jean ne sont pas destinées à être comprises par tous les hommes, mais seulement par des personnes initiées qui connaissent les secrets des interprétations révélées par les grands voyants de l'histoire. Ceux-là seuls seront en mesure de comprendre des écrits comme l'Apocalypse ou comme l'Évangile de Jean. C'était la troisième interprétation. Voici la quatrième. En fait, ce n'est probablement pas Jean qui a écrit l'Évangile. L'histoire de l'Antiquité nous apprend que les thèmes qui sont développés dans l'Évangile de Jean, les thèmes sur la vérité et l'erreur, sur la lumière et les ténèbres, sont des thèmes qui datent plutôt du IIe ou du IIIe siècle. Ce que nous possédons sous le nom d'Évangile de Jean n'est donc que l'idée que l'Église du IIe siècle se faisait de la vie de Christ. Cette Église commençait à exalter le personnage de Marie et a donc écrit ce texte pour soutenir sa vision des choses, mais l'incident n'est probablement pas authentique. Voilà les quatre interprétations. Je ne sais pas si vous vous souvenez des quatre, c'est un peu difficile. J'aurais dû vous les mettre sur le transparent, mais il y a certaines choses qui ne m'ont pas semblé dignes d'être imprimées. Alors, qu'est-ce que vous préférez comme interprétation? La deuxième? Oui? Pas d'autre? Pas de son discordant? Tout le monde est d'accord pour la deuxième? Oui. Alors, est-ce que nous pouvons retrouver les auteurs de chaque interprétation? Quel peut être l'auteur de la première interprétation? L'Église catholique, oui. l'Église catholique et l'auteur soutiendraient très volontiers la première interprétation de Marie désignée comme mère de l'Église à partir de ce texte. La deuxième interprétation, qui pourrait être l'auteur ? Pierre-Yves, par exemple. Des gens comme nous ? Oui ? La troisième interprétation, qui pourrait soutenir cela ? Une secte, oui. Et quel genre ? Témoins de Jéhovah ? Non, je ne pense pas. L'insistance sur les initiés qui seuls peuvent comprendre. Les francs-maçons, oui. Alors, quelque chose qui a une teinture un peu chrétienne, par exemple les Rose-Croix. Hein? Les Rosicruciens, par exemple, pourraient tout à fait soutenir cela en disant, ben voyez, Jésus préfère Jean. Jean, c'est celui qui a écrit des textes quand même un peu ésotériques. Occulte. Occulte, ça veut dire caché. Donc, il faut une initiation pour comprendre. Voilà. Et le quatrième texte, la quatrième interprétation, on n'est pas sûr que ce soit Jean qui écrit, puis c'est sûrement un écrit plus tardif. Qui pourrait écrire cela ? Pardon ? Monsieur X dans la rue, oui. Bon, je pense qu'il y a un certain nombre de théologiens, même protestants, qui pourraient signer des choses comme ça, en disant, ben voilà, il est naïf de penser que les évangiles nous décrivent la vie de Jésus. Bon, il y a sûrement quelques parcelles authentiques, mais le reste, c'est l'Église qui a écrit tout ça. Pourquoi donc quatre interprétations, j'aurais pu en citer d'autres probablement, divergentes sur le même texte. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est la suite de ce que nous avons vu il y a 15 jours, qui parlait de l'interprétation de la Bible, et qui se posait la question, vous savez, la question que l'eunuque, la remarque que l'eunuque a donnée à Philippe, hein, en acte 8, quand Philippe l'a rejoint sur son char, et il était en train de lire le prophète Ésaïe, ce eunuque éthiopien qui retournait dans son pays, et Philippe lui pose la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis ? Et l'eunuque lui répond, comment pourrais-je si personne ne me guide ? Nous nous étions donc posé la question, qu'est-ce qui doit nous guider pour comprendre la Bible ? Car il faut bien reconnaître qu'elle n'est pas toujours très simple. Et la deux questions subsidiaires que nous nous étions posées, c'est pourquoi sur un même texte il peut y avoir des interprétations très différentes selon justement ce qui nous guide. Et nous avions fait un premier pas en disant que c'est justement ce que nous mettons à côté de la Bible qui va fausser, aiguiller notre regard dans des directions différentes. Nous avions vu, je vais vous mettre un petit dessin, nous avions vu deux, je vous rappelle rapidement, deux façons, deux réponses qui ont été données dans l'histoire. La première qu'on a appelée l'illuminisme. L'illuminisme, ça veut dire que pour comprendre la Bible, il faut une révélation complémentaire. Il faut rajouter à la Bible une illumination qu'on va présenter comme un don du Saint-Esprit. Mais ajouter cette illumination, c'est déformer et c'est s'éloigner de la parole de Dieu. C'est ce que j'ai voulu représenter par mon premier dessin là-haut. Et il y a une parcelle de vérité là-dedans, c'est qu'on a besoin effectivement du Saint-Esprit pour comprendre la Bible. Non pas pour ajouter des textes, mais pour comprendre la Bible telle qu'elle existe Est-ce que Jésus, c'est ce que Jésus va dire à ses disciples, Jean 16, verset 13, quand le paraclet, un mot qui représente le Saint-Esprit, le consolateur, on peut dire aussi, quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, c'est Jésus qui parle, le Saint-Esprit me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit ne va pas nous annoncer quelqu'un d'autre, il va simplement nous rappeler qui était Jésus. Donc l'illuminisme, c'est une mauvaise solution parce que cette révélation supplémentaire va masquer la Bible. Nous avons vu une deuxième solution. Donc l'illuminisme, c'est ce qui correspondrait à la troisième interprétation que je vous ai donnée tout à l'heure, celle où on dit qu'il faut une initiation, où il faut comprendre les paroles des sages pour pouvoir comprendre la Bible. La deuxième façon qui a été donnée dans l'histoire, c'est ce qu'on a appelé le magistère institutionnel. C'est ce qui est pratiqué dans l'Église catholique, et d'ailleurs sans aucun, il ne s'en cache pas, hein, c'est comme ça qu'il voit les choses. Pour être bien guidé dans la lecture de la Bible, il faut une institution dont le rôle est de dire quel est le vrai sens. Cette institution détermine quelle est la vraie tradition de l'Église et va la rajouter à la compréhension de la Bible, va s'en saisir, va l'utiliser pour qu'on puisse comprendre la Bible. Donc, je vous ai marqué, ce magistère est source d'autorité qui va discerner dans les différents avis qui sont ceux qui sont autorisés à donner la compréhension de la Bible. Mais il n'y a pas que le catholicisme. Il ne faut pas taper toujours sur la même tête. Je lisais il y a encore avant-hier un livre qui se passe en Allemagne en 1820. Et en Allemagne en 1820, donc on est dans un milieu luthérien, et il était interdit de commenter les Écritures si un pasteur diplômé n'était pas présent. Donc, ce qui imposait aux gens qui voulaient lire la Bible en petits groupes de lire la Bible, et s'ils voulaient donner des commentaires, ils devaient être lus, ça devait être des commentaires imprimés qui étaient signés par un pasteur. On n'avait pas le droit de dire ben, « moi j'en pense ça, moi j'en pense ci », voilà. Comme quoi, vous voyez que l'idée du magistère, elle n'est pas seulement catholique. Alors, la parcelle de vérité, parce qu'il y a une parcelle de vérité là-dedans, c'est que Dieu a bien donné à son Église des pasteurs et des docteurs pour expliquer la Bible aux autres. Et nous pouvons nous appuyer sur les écrits présents et passés. Il ne faut pas penser qu'on est les premiers à lire la Bible. Il y a 20 siècles que les gens lisent la Bible. Et ces gens qui les ont lus avant nous, ils n'ont pas dit que des bêtises. Il y a des choses très intéressantes qui ont été dites dans les siècles passés. Mais par contre, tout ce qui a été dit doit être soumis aux critères de la Bible. S'il y a une divergence, c'est bien la parole de Dieu qui doit avoir le dernier mot. Alors, j'aimerais voir avec vous la troisième façon d'interpréter la Bible, ce que j'ai appelé la supériorité critique. Cela correspond à un mouvement de la pensée plus moderne où l'intelligence de l'homme se considère comme apte à critiquer la Bible. Tu peux descendre. Alors, dans les deux premiers, l'illuminisme et le magistère institutionnel, on avait tendance à rajouter des choses à la Bible. Là, on va plutôt avoir tendance à en enlever, à barrer des pans entiers, à déchirer des pages en disant « non, ça c'est pas tant pis qu'on l'enlève ». On exalte le jugement humain au-dessus de la parole. On trie ce qu'on pense vrai, ce qu'on pense faux. Cette conception, elle est née dans le sillage de la foi dans la science. On a érigé la science comme une source de connaissances plus sûre que la Bible Et du coup, on a critiqué la Bible à cette lumière-là. La science, la physique, l'astronomie, et puis après les sciences humaines, la psychologie, la sociologie, la philosophie. Et puis on a vu apparaître des théologies à la remorque des philosophes. On a vu une théologie hegélienne, suite de Hegel, qui parlait du bien et du mal qui devaient s'opposer dans une dialectique constructive. On a vu une théologie existentialiste. Actuellement, ce qui se porte bien, c'est la théologie féministe. Hein? Notre mère qui est aux cieux. Ça se porte très bien, ça, c'est très à la mode. La parcelle de vérité, c'est que nous avons à exercer notre raison pour comprendre la Bible. Paul a dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 10, verset 15, « Je vous parle comme à des hommes intelligents, comprenez, jugez vous-même ce que je vous dis. » Mais tout dépend du poids qu'on donne à l'un et à l'autre. Est-ce que mon intelligence doit m'amener à supprimer les passages de la Bible qui me gênent, ou est-ce que je dois faire avec et revoir ma conception ? On parlait tout à l'heure des églises luthériennes ou réformées. Certaines églises, et celles-là particulièrement, sont touchées par ce phénomène de la théologie moderniste. Et Jésus nous a dit, vous verrez, vous reconnaîtrez un arbre à ses fruits. Et quand je rentre dans certains temples réformés, je ne peux pas m'empêcher de penser à ça. Il n'y a personne. Et les enfants, enfin, les successeurs, les descendants de gens qui se sont battus, qui ont supporté les dragonnades, moi je suis ardéchois d'origine, donc il y a un gros passé dans ma région, de gens qui ont supporté les dragonnades, qui ont supporté les galères, parce qu'ils voulaient lire la Bible. Eh bien, les héritiers de cela ne la lisent plus. Et ceux qui la lisent ne la considèrent plus comme la vérité. Triste constat. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Puisque là, on a enlevé des façons mauvaises de faire, je vous en propose une bonne quand même. Quel est le guide d'interprétation de la Bible qui peut nous guider sûrement? Allez, je vous écoute. Le Saint-Esprit, ouais, mais encore, parce que c'est vague. L'un peut dire, moi j'ai reçu ceci du Saint-Esprit, moi cela. La foi aussi c'est vague. Moi je peux croire que les petits hommes verts sont venus dans mon jardin cette nuit. La prière, ouais, mais un critère qui est reconnaissable par tout le monde. Eh bien, la Bible elle-même, bien sûr. Le seul guide d'interprétation valable de la Bible, c'est la Bible. Bon, c'est pas un scoop, hein, mais... Et c'est ce qui caractérise le mouvement évangélique auquel appartient notre Église, c'est le désir de rester fidèle à la parole de Dieu. La foi transmise une fois pour toutes. Alors, il peut paraître un peu prétentieux de dire que les chrétiens que nous sommes sont plus fidèles à la Bible que les autres. J'admets que ça peut paraître prétentieux, mais il est juste de dire qu'ils essaient de l'être. Pour les autres chrétiens, les autres mouvements du christianisme, nous sommes appelés, un peu dédaigneusement, fondamentalistes. C'est un mot qui sonne un peu comme intégriste. Hein? Nous sommes appelés des fondamentalistes, et ça peut sembler une injure. Mais je vous propose de porter fièrement cette étiquette. Rappelez-vous Éphésiens 2, verset 20, « Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Nous sommes édifiés sur le fondement. Eh bien, soyons fondamentalistes, parce que c'est sur ce fondement que nous pouvons nous appuyer. Alors, j'aimerais juste rappeler aussi une parole de Jésus. Jean 17, verset 17. Pierre-Yves, il dirait, c'est facile à se rappeler ça. Jean 17, verset 17. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. C'est une prière de Jésus. Donc écoutez, la Bible est seulement la Bible. C'est la seule voie qui reste pour que son autorité reste intacte. La parole de Dieu interprète d'elle-même. Mais comment est-ce possible? Tu peux descendre jusqu'en bas, peut-être. Merci. Mais comment est-ce possible? Parce que pour comprendre ce qu'elle a à me dire, il faut que je la comprenne. On a l'impression qu'il y a un peu un cercle vicieux, là. Alors, la Bible nous apprend comment l'interpréter lorsqu'elle se cite elle-même. C'est ce qui se passe dans le texte que nous avions lu la dernière fois. Vous savez, où, en acte 8, ce fameux ministre éthiopien lit un texte qui a 8 siècles déjà à son époque. Et il ne va pas comprendre. Et dans ce texte d'Ésaïe, il ne sait pas de qui Ésaïe parle. Alors Philippe arrive et lui dit, ben voilà, c'est de Jésus-Christ que ce texte parle. La Bible nous apprend aussi lorsque plusieurs passages parlent du même sujet. Et c'est en comparant tous ces textes bibliques que nous pouvons comprendre de quoi il s'agit, que nous pouvons comprendre ce qu'elle nous dit. On appelle ça l'analogie de la foi. C'est l'idée que la Bible ne se contredit pas et que ce qu'elle dit, ce que Paul dit sur un sujet, Pierre va le dire d'une façon souvent différente, mais il va dire les mêmes choses et ça va reposer sur un ensemble de vérités où il n'y en a pas une qui va aller contre les autres. L'analogie de la foi, c'est la clé de notre compréhension. Lorsque nous tombons sur un texte un peu difficile, eh bien parfois, on est obligé de dire, ben là je ne comprends pas bien. Mais sur le même sujet, un autre auteur a écrit de la Bible, a écrit d'autres choses, et là nous pouvons comprendre, nous pouvons avoir la clé. N'hésitons pas à feuilleter notre Bible dans tous les sens. La Bible nous apprend aussi par sa façon de nous parler. Elle est écrite dans le langage des hommes, le langage courant. Bon, elle est écrite en hébreu pour l'Ancien Testament et en grec pour le Nouveau. À moins d'être très érudit, nous ne pouvons lire que des traductions. Mais elle est écrite en hébreu et en grec courant, c'est-à-dire la langue que parlaient les gens à cette époque. Ce n'est pas un langage codé. Peut-être que vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a eu une mode comme ça, ça a été très court, ça a été un feu de paille. Vous vous souvenez de la Bible décodée? C'était des gens très savants, alors ça concernait l'Ancien Testament, c'était des gens très savants qui avaient pris les textes écrits en hébreu, non c'est dans l'autre sens, pardon, c'est comme ça. Puisque ça s'écrit de droite à gauche, l'hébreu. Et puis ça s'écrit, quand vous reprenez les textes avec les lettres les unes au-dessus des autres, sur toute une page, si on lisait ça un peu comme, vous savez, comme les mots croisés ou les mots fléchés, on part en bas, on va un coup sur la droite, on arrivait à retrouver des significations cachées dans le texte. En fait, c'était un brillant exercice intellectuel. Certainement, les gens qui avaient fait ça, ils avaient dû y passer pas mal de temps. Mais ce n'est pas le but de la parole de Dieu. C'est des jeux, ça. Ce n'est pas comme ça qu'elle nous parle. J'allais dire, elle nous parle en français. Oui, enfin, elle nous parle en français dans nos traductions. Mais elle parlait. Les gens qui ont écrit la Bible l'ont écrite dans le langage de leur époque. Elle est écrite par différentes personnes. Et pourtant, elle se présente comme la parole unique, la parole de Dieu. Le prophète qui écrit dit « Ainsi parle l'Éternel ». Et il faut tenir compte de cette parole, du caractère unique de cette parole, pour que on ne mette pas deux textes l'un contre l'autre, mais qu'on cherche à comprendre ce que tous les deux veulent dire. Nous allons lire donc ces textes comme foncièrement d'accord entre eux. Pierre dit dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, verset 23, « Vous êtes nés de nouveau, non de père mortel, mais grâce à une semence immortelle, grâce à la parole vivante et éternelle de Dieu. » Et pas à nous de changer la Bible, c'est à la Bible de nous changer. Alors, il y a aussi des genres littéraires différents dans la Bible, des prophéties, des paraboles, des poèmes, divers moyens pour nous pénétrer du même message. Pierre dit aussi dans sa deuxième épître, « Aucune prophétie de l'Écriture n'est le fruit d'une initiative personnelle. » Personne n'a dit, « Tiens, si j'écrivais une petite prophétie ce matin, ah tiens, je me sens plein d'imagination, je vais vous écrire une prophétie, tiens. » Aucune prophétie de l'Écriture n'est le fruit d'une initiative personnelle. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, nous pouvons utiliser des outils. Nous avons vu tout à l'heure que notre intelligence doit être mise au service de notre compréhension. Nous pouvons utiliser des outils comme ceux que nous avons vus avant. Sur un texte qui peut me paraît difficile, je peux aider ma réflexion de ce que les autres chrétiens ont dit, d'une certaine forme de tradition. Je peux regarder aussi ce que mes frères et sœurs disent autour de moi. Et je pense que la lecture de la Bible, elle est utile en communauté pour nous aider les uns les autres. Regardez aussi quels sont les apports de l'histoire, quelle était. On comprend bien ce que dit un auteur qui a écrit il y a 20 siècles. Peut-être qu'effectivement, ou 30 siècles, c'est utile de savoir un peu ce qu'il vivait, comment il vivait, pour comprendre un petit peu ce qu'il dit. L'archéologie, la science de la transmission des textes aussi et de la traduction peut nous aider. La psychologie peut nous aider aussi, mais l'arbitre suprême de notre foi restera la parole de Dieu. Ce que je veux dire là, c'est que même si on emploie des outils qui ressemblent à ceux des groupes que j'ai évoqués tout à l'heure, ce qui est important, c'est de voir que l'arbitre final, c'est la parole de Dieu. Et je voudrais terminer, je l'avais déjà lu la dernière fois, mais je vous le relis, sur la façon de faire des croyants, des chrétiens de Béret. Béret, c'est donc un port qui se situe sur le trajet de l'apôtre Paul. Et dans le livre des Actes, au chapitre 17, il est question de la façon dont ces chrétiens de Béret ont reçu ce que disait l'apôtre Paul. Eux, ils avaient l'Ancien Testament, puisque le Nouveau n'était pas encore écrit. Eux, ils avaient l'Ancien Testament à leur disposition. Et Actes 17, verset 11, nous dit cela. Ils reçurent la parole de Paul, avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voilà, je vous incite à faire la même chose. Je nous incite à faire la même chose. Nous sommes abreuvé d'informations. Moi qui suis abonné à l'Express, il y a au moins un ou deux numéros chaque année où il y a un savant quelconque qui a découvert que en fait Moïse était pas passé à tel endroit mais à tel autre. Enfin, voilà, ça nous est présenté comme une vérité scientifique, quitte à nous dire l'inverse 6 mois après, c'est pas grave. Examinons chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on nous dit est exacte. Il n'y a qu'elle qui peut nous servir de base et d'ancrage et nous éviter d'aller à la dérive. Je vous remercie.